Radio Scoop. Radioscopie,
Samy Vell,
Jacques Chancel. Avec vous, Samy Vell, j'ai l'impression d'avoir affaire à un touche-à-tout. Parce que vous êtes cinéaste, vous êtes journaliste, amateur d'histoire et de géographie, grand voyageur, graphiste, dessinateur, conférencier, illustrateur, plus encore écrivain. Mais ce qui m'étonne, c'est d'une certaine manière votre anonymat, car vous avez pris un pseudonyme. Je sais que vous avez un refus pour tout ce qui est l'étiquette, et je sais que vous préférez véritablement le silence au grand bruit de Paris. Mais pourquoi avoir choisi l'anonymat le plus complet jusqu'à oublier totalement votre nom, Samy Vell ?
Permettez-moi tout d'abord de vous signaler que l'expression touche à tout a une résonance péjorative que
je m'y attendais,
que je souhaiterais éviter.
D'accord.
En ce qui concerne votre seconde question, eh bien, Samy Vell, voilà l'histoire. C'est un pseudonyme, bien entendu, ça n'a rien d'un anagramme. Il se trouve que dans mon adolescence, une de mes tante, fort bien inspirée, m'a offert les aventures de Monsieur Pickwick, remarquablement traduite d'ailleurs et illustrée par Cécile Alden. Au début, j'avais 13-14 ans, je n'ai guère compris ce livre, car il faut du temps, plus de maturité, je crois, pour comprendre l'humour, surtout l'humour britannique. Et puis, un peu plus tard, je l'ai lu, relu, re-relu, et c'est devenu mon livre de chevet. Et je fais partie de ce club, de ce Pickwick Club international qui n'a probablement un siège à Londres, mais je n'en sais rien, mais qui fait que lorsque l'on rencontre dans quelque part dans le monde un fanatique de Pickwick, celui-ci est capable, sur 600 pages, de prononcer une phrase de Pickwick et vous donnez la suite. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec des conséquences fort heureuses. Eh bien, l'un des principaux personnages de Pickwick, c'est Sam Weller. C'est le domestique de M. Pickwick et c'est un monsieur qui fait toujours des astuces. Et son petit nom d'amitié, c'est Samy Vell. Et comme j'ai commencé par les arts graphiques, j'ai cherché un pseudonyme. Celui-ci m'a apparu agréable, gai, saillant, débutant en serpent, si j'ose dire, et finissant en aile. Et je l'ai choisi. Et puis alors après ça, il m'a suivi dans toutes sortes de productions de nature, à vrai dire, très différentes.
Vous arrivez à oublier totalement votre nom, c'est-à-dire sur votre carte d'identité. Il y a les deux. Mais Samy Vell gomme un peu de votre passé et vous fait différent.
Oui, il a joué un rôle, évidemment. Vous savez, c'est le vêtement qu'on revêt pendant toute sa vie. C'est très important. Les 9 dixièmes de la correspondance que je reçois à l'heure actuelle, c'est au nom de Samy Vell, etc.
Alors, tout à l'heure, vous êtes un peu étonné que je puisse dire touche à tout. Et en fait, vous refusez ce terme alors que vous l'avez endossé d'une manière totale. Car on refuse aux gens, justement, de s'intéresser à tout et d'être curieux. On les veut dans des tiroirs, avec posés dessus des étiquettes. C'est-à-dire, on ne leur pardonne pas de pouvoir véritablement s'intéresser à tout ce qui compte dans leur monde.
Oui, vous l'avez dit vous-même, on ne leur pardonne pas.
Non, on ne leur pardonne pas. Et on ne vous l'a pas pardonné, d'ailleurs, à certains moments.
Oui, enfin, ça va un peu mieux maintenant avec les nouvelles générations, je dois le dire. Mais il est certain que lorsque les gens vous ont fourré dans un tiroir quelconque avec une étiquette au cou, s'ils ne vous y retrouvent pas, ils sont mécontents. Ils estiment que ça passe à leurs yeux comme une espèce de trahison. C'est leur dire « mais vous n'avez pas compris ce que j'étais réellement ». Et alors, les réactions sont souvent assez péjoratives, négatives. Et j'ai commencé donc par du graphisme, puis un grand éditeur parisien à l'époque, enfin il l'est toujours, mais de Lagrave, m'a proposé d'illustrer des livres pour enfants. Ce que j'ai accepté, c'était le deuxième.
C'est le plus difficile, hein ?
Palier, oui. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir gardé soi-même, avoir eu la chance de garder la curiosité et la fraîcheur de l'enfance. Et heureusement, c'était mon cas. Alors j'ai commencé à illustrer des albums pour enfants avant la guerre. Toute une série, dont Goupil Brun-l'Ours et Les Malheurs d'Isengrin, dont l'action est tirée du roman, du fameux roman d'Urnard médiéval, mais que j'ai traité avec vraiment beaucoup de liberté. Je me suis mis dans la peau d'un conteur du 12e, j'ai repris certains thèmes, j'en ai inventé d'autres, j'ai réagencé à ma façon, et enfin j'ai écrit le texte, et j'en parle parce que ce sont mes écoles littéraires, j'ai écrit le texte en vers libre à la manière de Paul Fort. Parce que mon idée, c'était qu'il devait y avoir un rythme, une harmonie poétique sous-jacente, mais qu'elle ne devait pas s'imposer au jeune lecteur. Il devait la sentir, c'est l'inconscient qui devait être frappé. Et c'est pourquoi j'ai écrit ces trois albums de cette façon.
Vous pourriez écrire en vieux français ?
Je le crois. Après, enfin, il faudrait que je reprenne contact avec les textes, mais vous savez, il y a des temps de la littérature qui vous frappent davantage que d'autres, qui vous séduisent davantage. Il est certain que la littérature médiévale me plaisait énormément, peut-être justement à cause de l'aspect conte qu'elle contient très fréquemment.
Alors, qu'êtes-vous le plus ? Écrivain, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous ne revendiquez que ce rôle.
Je ne revendique pas que ce rôle, mais c'est certainement par le canal de l'expression littéraire que je me sens le plus libre. Évidemment, j'ai été un dessinateur, un graphiste, mais je ne me considère pas comme un peintre. Alors que je crois que sur le plan littéraire, tous les niveaux me sont accessibles. Enfin, je m'excuse de ce qui peut paraître une immodestie farouche, mais tout de même, je crois que je peux m'exprimer à différents niveaux.
Même dans le roman. Il n'y a qu'un roman, quand même, dans votre...
Il n'y a qu'un roman.
Le Fou d'Edenberg.
Qui est Le Fou d'Edenberg, qui est paru en 67, et qui, mon Dieu, à l'époque, a été assez près du Goncourt, puisque 4 ou 5 membres de l'Académie en ont parlé abondamment dans la presse.
Et pour tout le reste, c'est plutôt la nature, la montagne, c'est l'œil émerveillé. Quoi. D'une manière générale, c'est le titre d'un livre, L'œil émerveillé, mais c'est quand même un peu de votre vie. Hein.
Certainement. L'œil émerveillé, c'est la nature considérée comme un réceptacle inépuisable de satisfaction esthétique. Et j'ai voulu faire comprendre, rappeler plus exactement à mes contemporains qu'ils trouveraient là que c'était une voie de la sagesse et du bonheur. J'ai eu la chance de voir beaucoup de belles choses pendant ma vie au cours des voyages qui se sont déroulés un peu de tous les côtés, aussi bien en Afrique que dans le Grand Nord. Et dans ce livre, L'œil émerveillé, j'ai voulu remettre en honneur une forme d'expression qui est à peu près perdue et qui s'appelle la description littéraire. Et pourquoi ? Et tout simplement parce que je pense que dans la description littéraire, on exige du lecteur qu'il soit un véritable collaborateur. Il faut que lui-même mette du sien pour suivre l'auteur. Et cette collaboration entre auteur et lecteur m'a toujours paru absolument essentielle, non seulement d'ailleurs sur le plan littéraire, mais sur le plan artistique.
Vous estimez donc qu'un écrivain peut installer dans ses livres des plages de silence et c'est le lecteur qui doit les combler.
Voilà, c'est exactement ça, c'est le terme plage de silence. C'est d'ailleurs une technique qui nous vient de très loin. Qui vient du zen.
Vous le pratiquez, le zen ?
Non, pas précisément. Mais je me suis aperçu, dès le début, que j'étais finalement très proche, au moins sur le plan artistique, non seulement des modes d'expression, mais de l'état d'esprit de l'artiste extrême oriental. Et d'ailleurs, on me l'a dit presque tout de suite, des connaisseurs, car moi, j'étais analphabète, en l'occurrence, j'ai fait...
Qu'est-ce que vous avez fait comme études ?
Les études secondaires, comme la plupart des gens, puis je me suis arrêté là.
Pas tellement de diplômes ?
Non, je me suis arrêté au bac, et j'étais d'ailleurs dernier en classe de dessin, parce que c'était l'horrible époque, l'époque où on prétendait apprendre le dessin et donner le goût des arts aux malheureux adolescents à l'aide de plâtre. Cette espèce de musée Grévin en dur, c'était abominable et il n'y avait rien de tel pour vous couper l'inspiration. Alors en somme, j'ai commencé à dessiner à partir du moment où je suis sorti des classes de dessin.
Je reviens, Samivel, à cet œil émerveillé. Vous avez fait le tour du monde. Vous pourriez aujourd'hui donner une définition de la beauté ? On ne s'entend que très mal lorsqu'il s'agit véritablement de croquer le mot.
La beauté, ce sont des... À l'heure actuelle, ce sont des axiomes qu'on voit apparaître ici et là dans certains livres d'esthétique et d'autres, et qui ne sont jamais, ou du moins très rarement, explicités. Oui. J'ai essayé d'aller un peu plus loin dans ce livre, qui confine au fond à l'esthétique. Et j'ai pensé que la beauté, c'était la qualité d'un objet grâce à laquelle on se sent dans un certain temps et dans un certain espace en harmonie totale avec le cosmos. En d'autres termes, je ne sépare pas l'idée de beauté d'un sentiment d'euphorie cosmique. Je pense qu'il y a un moment où tout d'un coup, tout est merveilleux et on est porté par le rythme universel. Et ce sont ces temps si précieux et si rares qui sont suscités par la beauté en général et l'œuvre d'art et aussi la beauté naturelle. C'est là le lien.
Mais que pensez-vous de ceux qui disent que est beau un objet qui est fonctionnel, c'est-à-dire un objet qui sert ou qui plaît aux gens?
Mais alors là, nous,
qui rend service.
Oui, mais c'est
autre
deux
chose.
Choses très différentes. D'abord,
très différent.
Qui plaît. Alors là, nous entrons dans un domaine sans horizon, n'est-ce pas? N'importe quoi peut plaire dans un certain lieu, à certaines gens, etc. Et pour bien des raisons qui n'ont rien d'esthétique. Quant à la fonction, c'est très limité. C'est, disons, la fonction industrielle, mécanique. Alors, c'est une espèce de beauté, d'ailleurs, puisqu'il s'agit bien d'un accord, d'une harmonie créée entre l'environnement et l'objet. Mais la véritable beauté avec un grand B, ça va infiniment plus loin.
Alors, il y a cette montagne qui, maintenant, vous a totalement rendu prisonnier, pour votre plus grand bonheur, d'ailleurs. Et je crois pouvoir dire qu'elle a joué un grand rôle dans votre vie. Mais vous êtes né à Paris et on pourrait plutôt penser que vous êtes, savoyard, alpin. Et pour me faire plaisir, je dirais que vous pourriez être pyrénéen.
Bon, certainement, je pourrais être pyrénéen.
Un homme de la montagne.
D'autant plus que chaque fois que je vais dans les Pyrénées, je suis séduit par ces montagnes qui, elles, ont encore conservé un grand cachet d'authenticité. Mais non, je suis parisien, mais j'ai eu la chance de connaître très tôt la montagne. Vous savez, dans cette enfance, où tout se colore de nuances d'une fraîcheur indescriptible, inexprimable, où la mémoire enregistre tous les faits avec facilité. Et j'ai fini mes études au lycée de Chambéry, en Savoie, par conséquent, avec d'ailleurs, je me permets de le signaler au passage, un monsieur qui n'était pas rien, car c'était Daniel Rops que j'ai eu comme professeur d'histoire et de géographie. Naturellement, Daniel Rops est un homme qu'on a pu critiquer, comme tous les historiens, sur les perspectives qu'il avait ouvertes ou qu'il avait choisies. Mais je dois dire qu'en tant que professeur d'histoire et de géographie, il était tout à fait remarquable. C'était à l'époque un jeune agrégé. Je pense que tous ceux qui ont... Il m'a donné, si j'insiste là-dessus, c'est que je crois qu'il m'a donné le goût de l'histoire. Il a aussi favorisé le goût de l'humour, parce que je me souviens qu'à la dernière classe, eh bien, Daniel Rops se disait, il s'appelait d'ailleurs Petiot, le professeur Petiot disait, bon, assez de livres, nous allons maintenant nous amuser. Et alors, on sortait les copains de Jules Romain, et c'était généralement moi qui étais chargé de les lire.
Alors, je disais donc, parisien, et vous ne vivez plus à Paris, vous êtes installé dans le Midi.
Depuis très longtemps,
du côté
dès avant la guerre.
Alors,
oui,
comment retrouvez-vous Paris?
Et Paris a bien changé, je vous l'avoue. Je ne peux pas être très optimiste sur la question. Il me semble que le parfum de Paris, enfin au sens le plus complet du terme, s'est en partie évanoui. Ce qui me frappe, c'est l'aspect malheureux des gens. De plus en plus, ils ont l'air tristes, mélancoliques. Quelquefois, ils sont hargneux, sans grand motif.
On sent qu'ils sont pressés.
Ils sont à bout de nerfs. Comment voulez-vous que l'on... Je crois que le français résiste plus mal qu'un autre à cette forme de la vie collective. Nettement. Hier, une voiture a reculé et a failli m'estourbir. Il y avait une jeune femme dans cette voiture et nous nous sommes regardés et tout à coup, elle a souri. Et moi aussi. Et je me suis dit, tiens, enfin un sourire au lieu d'une bordée d'injures.
Et je veux dire que vous ne trouvez pas ce côté coléreux dans nos provinces. Vous pensez que les gens y vivent mieux parce qu'ils vivent plus lentement.
Et ils vivent d'une manière plus authentique. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le snobisme, le copinage, tout ça, ça existe. C'est moins frappant en province qu'ailleurs. Et on a l'impression d'y être apprécié vraiment pour soi-même, pas pour d'autres raisons. J'en ai eu une expérience récente, ou même deux qui m'ont profondément touché. L'une, ça s'est passé à Autun, où j'avais été invité par un jeune homme qui dirige une chorale. Et il m'avait écrit une lettre si gentille que j'y suis allé. Mais sur place, j'ai été absolument stupéfait de ce qui s'est passé. Une chorale de 80 exécutants, s'il vous plaît. Mes dessins agrandis à 2,50 m de hauteur. Une exposition à la bibliothèque municipale avec inaugurée par M. Lucot, le sénateur maire, des livres assignés, etc. Enfin, une gentillesse extraordinaire. Et puis tout récemment, c'était Grenoble avec les comités d'entreprise, travail et culture qui m'ont invité successivement à m'entretenir avec les lecteurs adultes d'une part et les jeunes lecteurs d'autre part. Et ça a été passionnant tout ça.
Mais cela vous paraît vous étonner alors que véritablement vous pourriez les avoir ces contacts avec beaucoup d'autres. Il suffit de demander.
Oui, mais ce n'est pas. Je vous avouerai que je ne tire jamais la sonnette.
Oui.
C'est peut-être un vice à l'heure actuelle, mais. Et puis, je suis très pris, j'ai toujours beaucoup d'occupations. Enfin, quand ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, j'ai tellement de choses à faire, ou à voir, ou à connaître, ou à lire, que mon temps passe rapidement. Mais je voudrais me permettre de vous signaler aussi qu'il y a toute une partie de cette expérience qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, ce sont les grands voyages. Parce que. À la fin de la guerre, j'ai fait, inutile de vous le dire, la guerre sur le front des Alpes. Et puis, j'ai eu la chance de ne pas être fait prisonnier. Et à la fin de la guerre, j'étais comme beaucoup de Français, il y avait une espèce d'explosion intérieure. Et ça s'est traduit par une envie folle de voyager. Je voulais voyager, aller ailleurs, etc. Et peu de temps après la guerre, j'avais des amis, entre autres Robert Gessin, qui est devenu le directeur du musée de l'Homme après, Paul-Émile Victor et Victor.
Vous êtes parti avec Victor?
Je suis parti avec Victor pour la première expédition française
polaire
au Groenland en 48, si j'ai bonne mémoire.
La grande aventure.
Alors
là.
C'était la grande aventure et sur tous les plans, y compris sur le plan esthétique, parce que le monde de l'Arctique est absolument splendide. C'est un monde étonnant de formes et de couleurs, où l'on retrouve tout l'abstrait d'ailleurs, projeté dans, n'est-ce pas, le fait qu'un iceberg et les 8/10 de sa base sous l'eau et forme contrepoids permet de faire surgir de la mer des formes extravagantes, comme par exemple une tour de cristal de 40 mètres de haut incliné à 45 degrés. Des histoires comme ça, incroyables.
Et qui changent, le paysage qui change.
Qui change continuellement. Le vent chasse les icebergs, les icebergs eux-mêmes se retournent. Les teintes sont d'une évanescence.
Les couleurs aussi changent.
Oh, toute la gamme des gris, des bleutés, des beiges, ou bien des couleurs éclatantes. Comme le soir, par exemple, au soleil couchant, où j'ai vu des icebergs en flammes, littéralement, sur 25 km de longueur. Ce sont des spectacles inouïs et qu'on ne soupçonne absolument pas dans notre Occident.
Vous n'y êtes allé qu'une seule fois au pôle?
Non, je n'y suis pas allé qu'une seule fois, car après les expéditions polaires françaises, j'y suis retourné pour mon propre compte, si j'ose dire, pour réaliser mon livre et mon film sur l'Islande.
Ah, oui.
Alors, tout cela était intitulé « L'or de l'Islande ». Inutile de vous dire que cet or, c'est un or symbolique. J'ai fait allusion ici à la magnifique culture de l'Islande, les Islandais étant certainement les gens les plus cultivés d'Europe à l'heure actuelle. Et je me suis promené de nouveau deux fois au Groenland pendant qu'un de mes camarades, qui est maintenant professeur d'ailleurs à l'Université de Montréal, Patrick Plumet, lui, s'en allait au Labrador, où ont atterri vers l'an 1000 Leif le Rouge, c'est-à-dire le fils d'Éric le Rouge. Tout ça était encore une aventure étonnante. On retrouve
C'est un voyage initiatique, presque.
C'est presque un voyage initiatique, d'ailleurs, mais il y en a un qui l'était bien davantage, c'est l'Égypte.
Oui, on reparlera de l'Égypte d'ailleurs, parce que vous dites voyageur, Samivel, mais c'est vrai que vous êtes allé en Méditerranée orientale, en Égypte, au Soudan. Bon, vous venez de parler du Grand Nord, vous venez de parler de votre film L'or de l'Islande. Et je dois dire que lorsque vous avez publié votre livre L'or de l'Islande et montré votre film, vous ne l'avez montré qu'à certains spécialistes, comme si vous vous méfiez du grand cinéma. C'est vrai que vous l'avez montré au cours de conférences. Il n'est pas devenu un film du commerce.
Non, jamais.
Pourquoi?
Tous les films que j'ai réalisés ont été destinés aux grandes conférences par le truchement d'ailleurs de connaissances du monde. Oui. Je suis actuellement l'un des piliers, l'un des plus anciens membres. Et ça n'empêchait pas un contact avec un très vaste public. Songez que Trésor de l'Égypte, par exemple, n'est pas passé moins de 19 fois à la grande salle Pleyel. Ce qui correspond tout de même à, mettons, 3 mois d'exclusivité dans un cinéma moyen. C'est tout de même considérable. Et avec un contact formidable avec le public parisien.
Oui, c'est ce contact que vous souhaitez avoir.
Oui, alors ce contact, j'ai eu la chance de l'avoir au cours de ces tournées de conférences qui ont été réalisées non seulement en France, mais dans tous les pays francophones. C'est-à-dire que j'étais aussi bien en Belgique, on est toujours remarquablement reçu, et puis aussi bien au Canada, en Afrique du Nord, au Sénégal, etc.
Mais aujourd'hui, Sammy Bell, vous avez 73 ans, on peut ne pas le cacher.
Quelque chose comme ça, hein, oui, oui.
Bon, que faites-vous de votre vie? Je crois que vous écrivez beaucoup encore, mais vous voyagez beaucoup moins.
Si, je continue à voyager. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans l'océan Indien. Et heureusement, je peux toujours monter en montagne. Oui. Je peux toujours monter en montagne. Quand je suis à 3004, ça va, il n'y a pas de problème.
Faire de l'alpinisme encore?
Ah oui, oui, oui. Enfin, quand on est à 3004, on fait du petit alpinisme en général.
Mais
enfin,
quand
j'en
même
fais. J'en fais.
En fait, tout a commencé pour vous avec le dessin, car vous avez illustré. Puis comme il fallait également aller un peu plus loin, vous avez rédigé des textes pour illustrer,
Oui, c'est ça, c'est comme ça
dessins,
que ça a commencé.
Tout commence comme ça.
Tout a commencé comme ça. Mon premier livre, alors il a été publié juste avant la guerre, il a été écrit juste avant la guerre, c'était L'amateur d'abîme. L'amateur d'abîme, comme par hasard, était consacré à la montagne et la presse de l'époque l'a un peu rapproché, l'a même rapproché beaucoup du fameux livre de Jérôme K. Jérôme, ce qui était un honneur. On a dit que c'était le livre Les trois hommes dans un bateau de la montagne. Et en effet, ce sont les vacances de trois camarades dans le massif de Chamonix que j'ai surtout beaucoup fréquenté entre les deux guerres. Et c'est un livre à la fois lyrique et humoristique. Vous savez, une espèce de fourre-tout d'un jeune écrivain. Il y en a trop, il y a des digressions, il y a tout ce qu'on veut dans ce livre. Mais enfin, je me suis bien amusé à le lire et il est sorti. Alors, une époque choisie. Hein, et vous en jugerez en mai 1940. On ne pouvait pas faire mieux.
Ça a été un succès?
Oui, ça a très bien marché. Il a fait de nombreuses éditions. Il est actuellement au livre de poche.
Mais Sammy Bell, par qui avez-vous été encouragé? Parce qu'au commencement d'une carrière, il faut toujours
parfois
bonnes âmes.
Oui, c'est ça. Bah, tout à fait au début, il y a un monsieur qui était le bibliothécaire aux arts décoratifs et qui s'appelait Edouard Monoirzen. Et c'est lui qui m'a fortement encouragé sur le plan graphique. Et puis après, j'ai passé à d'autres plans, enfin tout seul, sans autre encouragement que celui du public.
Enfin, vous dites, lorsqu'on se mêle d'écrire ou de dessiner pour les enfants, il faut être soi-même encore capable de s'amuser comme un enfant. Il ne faut pas avoir perdu sa propre enfance.
Oui.
Et je veux dire que cette chose-là n'est pas fréquente, surtout dans les mondes que nous vivons.
Oui, je pense. Et c'est une grande chance. C'est une grande richesse intérieure que d'avoir conservé ces dons de l'enfance qui sont... toujours la curiosité et l'enthousiasme. Et ça, j'ai gardé. Je reste un curieux de tout, comme vous d'ailleurs.
Mais il y a également cette montagne qui ne vous quitte pas, parce que votre dernier livre, Conte des brillantes montagnes avant la nuit, c'est un livre d'aujourd'hui. Là, vous vous amusez. En plus, là, vous faites œuvre totale littéraire.
Oui, c'est unique. C'est une
ce sont des nouvelles.
Uniquement littéraire, ce sont des nouvelles. Le mot conte peut prêter à confusion, parce qu'en France, quand on parle de conte, on pense à un public jeune, mais en fait... C'est un livre de nouvelles qui se situe sur un plan où les adultes ont à peu près seul accès, parce qu'il y a tout de même des problèmes importants qui sont posés, sinon résolus, mais du moins posés.
Quels sont pour vous les problèmes importants?
Eh bien, par exemple, il y a une nouvelle que peut-être c'est celle que je préférais personnellement parce que c'est la plus courte. C'est le miracle de Hyacinthe Coutaz. C'est très court et c'est très symbolique. C'est l'histoire d'un vieil homme qui est plein d'amour pour ses abeilles. Ses abeilles, il les laisse l'hiver dans un chalet à 2000 mètres d'altitude. Et puis, il va les ravitailler en mars. Il doit traverser d'ailleurs un site qui n'est plus qu'une grande station internationale de ski avec les monts de pente, les téléphériques, le boucan, etc. Et quand il revient, eh bien, il est pris par une tempête de neige et il meurt. Mais il meurt en quelque sorte pardonné. Parce que le geste qu'il a accompli, c'est un geste d'amour. Et cette position de ce très vieil homme se trouve en conflit évident avec la brutalité et l'efficacité de certains aspects du monde moderne. Voilà.
Mais je veux dire que vous êtes très attaché à tout cela, parce que je me rappelle qu'il y avait un livre, je ne me rappelle plus exactement le titre, c'était par rapport à l'homme qui se gargarise toujours de ses pouvoirs, et vous donniez vraiment presque une première place à l'insecte.
Ah, c'est... Tiens, vous...
C'était Univers géant.
Univers géant,
oui.
Les nouveaux voyages.
Ouais, voilà, c'est cela.
Voilà. Oui, oui. Ah oui, oui, ça aussi, ça a été une expérience.
Je ne sais pas s'il y a un parallèle. Hein.
Non, mais il y en a un dans un certain sens, puisque vous connaissez bien entendu la leçon de relativité de Swift, qui serait véritablement tout à fait de circonstance à l'heure actuelle. J'ai réalisé d'ailleurs un film parallèle à ce livre. Ça a été cette même leçon de relativité. Il y a un lien, par exemple, entre Trésor de l'Égypte et univers géant au premier abord, ça paraît bizarre. Le même homme qui s'est intéressé à l'Égypte ancienne, brusquement, réalise un livre sur les insectes. Pourquoi? Où est le lien? Le lien, eh bien, je pense, justement, j'ai prononcé le mot relativité, je pense que c'est ça, que c'est une leçon de relativité. Celle de l'Égypte, c'est une leçon dans le temps. Et dans Univers géant, qui est nommé par antiphrase, c'est une leçon de relativité dans l'espace. En d'autres termes, il s'agit de contraindre le lecteur ou le spectateur, puisqu'il y a eu des films, à sortir de son propre champ de vision pour adopter d'autres points de vue, ou plus vastes ou plus restreints. Et je crois que c'est très utile parce que cette civilisation, elle est en train peut-être de crever d'orgueil.
Alors Samivel, il y a donc tous vos voyages, et vous, le dessinateur humoriste, vous l'imagiez, vous êtes mêlé d'écrire sur l'Égypte, sur la Grèce, et cela doit paraître complètement incompatible et saugrenu aux yeux de quelques-uns.
Sans aucun doute, en particulier des spécialistes.
Parce que pour les néo-cartésiens...
Oui, parce que vous comprenez, vous savez qu'à l'heure actuelle, l'instinct du territoire est fort répandu, surtout chez les spécialistes. Et lorsqu'on se mêle de piétiner leur plate-bande et qu'en plus on a l'audace d'avoir des idées à peu près personnelles sur la question, ça ne va plus du tout. Or, lorsque j'ai écrit « Trésor de l'Égypte », je ne me prétends en aucun titre, je ne suis absolument pas un égyptologue et je ne prétends pas connaître ce beau métier. J'étais un artiste, disons, sensible, qui prenait contact avec l'Égypte. Mais il y avait derrière moi tout de même, j'avais des précisions, une documentation fort importante, parce que je me suis toujours passionné pour l'histoire des religions, pour les mythologies comparées. Alors, j'avais lu beaucoup de gens, entre autres Mircea Eliade, qui est un puits de science. Et quand je suis arrivé en Égypte, eh bien, il se trouve que j'avais certaines idées sur la fonction réelle des grandes pyramides. Et des idées qui étaient fondées sur ces travaux de mythologie comparée. Et à ma grande stupeur, je me suis aperçu qu'à l'époque, il y avait des cloisonnements entre les disciplines et que des égyptologues parfaitement qualifiés n'avaient jamais entendu parler des travaux de Mircea Eliade.
Mais par exemple, sur les pyramides, vous pensez quoi?
Oh, je pense que les pyramides sont essentiellement des monuments d'échange entre la terre des hommes et le ciel des dieux, et que leur fonction de tombeau royal qui ne peut pas être contestée est une conséquence de cette architecture et non pas la cause de cette architecture, ce qui modifie entièrement le point de vue. Parce qu'on a dit depuis Hérodote que les pyramides étaient des monuments de l'orgueil. Moi, je ne le crois pas. Je crois que les pyramides sont des monuments de la foi.
Ce sont des passerelles, alors?
Ce sont des passerelles, ce sont des traits d'union, ce sont des cordons ombilicaux. Et en multipliant les pyramides à la surface de leur sol, les anciens Égyptiens ont cru multiplier les points de contact de leur terre, de leur patrie, avec un ciel qui passait pour le réceptacle de toutes les énergies, solaires et les autres, en un temps, notez-le bien, où la notion d'énergie matérielle et d'énergie spirituelle était mal différenciée.
Mais sont-ils nombreux ceux qui partagent votre opinion?
Imaginez-vous que depuis, ça s'est infiltré, hélas, partout. Et que quand je suis sorti de France à l'époque, quand j'étais en Luxembourg, en Hollande, on m'a dit immédiatement, mais les idées que vous avez exprimées, Samivel, nous sommes très près de les adopter. Et j'ai eu des appuis extraordinaires à l'étranger, puisque le directeur de la Fondation Élisabeth d'Égyptologie a tenu 12 fois de suite à venir me présenter lui-même sur la scène du Grand Palais des Beaux-Arts à Bruxelles au moment de la présentation du film. C'est vous dire que tout de même, certains égyptologues étaient d'accord.
Donc on peut considérer que les pyramides d'Égypte, si l'on vous écoute bien, sont une passerelle ou un trait d'union entre la terre et le ciel. Voilà. Mais il y a également leur construction. Vous avez essayé d'étudier un peu, d'en savoir un peu
non,
plus.
Non, je ne suis absolument pas un spécialiste. Il faut vraiment là des techniciens. Mais enfin, j'ai pu m'ébahir, comme tout le monde, de l'incroyable perfection de ces édifices, aussi bien dans les détails que dans l'ensemble. Et supposé, j'ai évidemment lancé une hypothèse sur la montée de certains blocs. J'ai pensé qu'il était qu'on avait pu peut-être utiliser une sorte de funiculaire primitif à contrepoids le long des faces de la pyramide pour monter certains blocs de 1,5 tonne, etc., mais que le contrepoids en question pouvait être le seul qui se déplaçait sur ses deux pattes, c'est-à-dire des hommes. Bon, mais enfin, c'est une hypothèse.
Enfin, vous avez essayé de comprendre.
J'ai essayé de comprendre, mais je n'y attache pas davantage d'importance. Tant qu'on n'aura pas réellement trouvé des détails matériels qui pourraient prouver que ça a pu exister, c'est tout. Je ne m'accroche pas du tout à cette hypothèse.
Samivelle, il serait intéressant de savoir ce que les Égyptiens en pensent aujourd'hui.
Ah bien, écoutez...
Vous avez eu des contacts?
Oui, j'ai eu pas mal de contacts. Et même, ils avaient décidé de me conférer leur grand ordre du Nil, un crachat grand comme ça. Et puis, à ce moment, certaines circonstances, vous avez peut-être entendu parler, l'affaire du canal de Suez est arrivée. Et le crachat, je l'ai vu de loin, brandi au bout des doigts. C'était très beau, avec un ruban vernis, naturellement. Mais je n'en ai jamais vu davantage. Mais tant pis, n'est-ce pas?
Alors, lorsque vous avez dit un certain nombre de choses concernant et la Grèce et l'Égypte, on ne vous a pas tellement pris au sérieux, on s'est dit c'est un amateur, parce qu'on ne...
Attendez, écoutez, permettez-moi tout de même de rectifier. Certaines personnes ne m'ont pas pris au sérieux, ou plus exactement, ont manifesté leur mauvaise humeur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais d'autre part, je vous citerai à propos du soleil se lève en Grèce, par exemple, où je me suis attaqué aux civilisations d'avant Périclès. Eh bien, moi, j'ai reçu des lettres alors de gens très, très qualifiés, à commencer par des spécialistes grecs, et qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi. Et je me souviens d'une lettre que j'ai reçue, on me dit « vos théories, vos hypothèses, enfin, pas vos hypothèses, mais votre manière d'envisager la Grèce ancienne plaira aux agrégés ».
Mais avouez, Samivelle, que la liberté se paie cher, quand même.
Oui, elle
s'appelle... vous n'avez pas eu envie de changer de nom pour...
Non, elle s'appelle...
Pour écrire. Hein,
Oui. Seulement, alors là, on a tout le monde contre soi. À commencer par les éditeurs, pour lesquels vous représentez sous un certain pseudonyme ou non une valeur. À partir du moment où vous retombez à zéro, tout est à refaire sur le plan publicité. Voilà, alors ça m'a suivi.
Enfin, vous êtes toujours intéressé à l'histoire. Pour vous, le passé est quelque chose de vivant, d'actuel, et vous n'aimez pas les divisions classiques du temps.
Je veux dire que alors là, c'est une espèce de... J'oserais comparer ça à une sorte de daltonisme intellectuel. Je distingue mal les divisions classiques passé, présent, futur. Pour moi, le passé est extraordinairement vivant. Et quand j'étais en Égypte ou en Grèce, j'étais submergé de, comment dirais-je, enfin il n'y a pas d'autre terme, peut-être d'onde. Je sentais tout cela au bout des doigts. Pour moi, ça n'était pas quelque chose d'extérieur. Je sentais les choses et je tâchais de les exprimer comme je les sentais.
Mais enfant, vous étiez passionné, fasciné par l'histoire de l'Égypte ancienne ou par l'histoire de la Grèce, car ce sont des voyages qui sont souvent très, très, très motivés, hein, qui sont presque guidés.
Oui, enfin, ça n'a jamais été, il ne s'est jamais agi de voyage touristique au sens... Ouais. Jamais. C'était autre chose. J'essayais de retrouver...
C'était une nécessité.
Intérieure. Et j'essayais de retrouver certaines sources. Je ne peux pas dire mieux. Et en ce qui concerne l'Égypte, j'ai toujours été fasciné par l'Égypte, même tout petit enfant. Peut-être est-ce... Enfin, qui sait...
Mais qui vous l'a raconté, cette Égypte? Vos parents?
Eh bien, j'allais vous dire que j'ai un oncle très lointain, un grand-oncle, qui se trouvait être égyptologue. Est-ce que ça vient de là? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, dès mon premier album de dessins humoristiques, c'est-à-dire Sous l'œil des Choukas, eh bien, il y avait une page consacrée à l'Égypte. Ce qui est tout de même bizarre dans un livre consacré à la montagne.
Enfin, ce que vous avez souhaité, Samivelle, c'est surtout faire aimer ce que vous aimiez vous-même. Et c'est, je crois, la vertu de l'écrivain, c'est-à-dire le partage.
Oui. Pardon, j'ai...
Le partage. Faire aimer ce que l'on aime.
C'est exactement mon but. Oui. Sans quoi, ça ne sert à rien. Je crois que l'écrivain a non seulement le droit et le devoir de faire accepter par d'autres ce qu'il considère comme être vérité et beauté. Sans quoi, à quoi sert-il dans le monde contemporain? À rien. Il faut d'ailleurs pouvoir le faire. J'ai eu cette chance en général.
Mais aujourd'hui, vous ne voudriez pas reprendre aujourd'hui le cours de vos voyages, revoir un peu l'Égypte et revoir un peu la
si,
Grèce?
Ah si, bien sûr. L'Égypte, j'y retournerai certainement. Mais c'est une question de temps, vous savez. Les mois filent de plus en plus rapidement. Et j'ai beaucoup de travaux encore en tête.
Mais votre travail d'aujourd'hui, c'est « Conte des brillants de montagne avant la nuit ».
Oui, alors...
D'abord, c'est un titre quand même un peu bizarre. C'est un livre qui paraît chez Artaud en ce moment. Mais ce titre est étonnant. Il est un peu long, d'abord. Et puis, c'est presque la quête du Graal.
Oui, mais c'est aussi ce titre. J'ai été inspiré par le titre d'un très beau film japonais que vous avez certainement vu comme moi, « Les contes de la lune vague après la pluie ». Alors, c'est presque un vers rythmé, le titre de mon propre livre. J'ai trouvé ce titre si beau que j'ai essayé de l'adapter à mon sujet, ce que j'ai fait. Alors, il s'agit donc de nouvelles fantastiques, de 9 nouvelles fantastiques, et dont le décor se déroule toujours en montagne, mais des Himalayas aux Pyrénées, en passant par les Alpes et les montagnes chinoises. En général, plusieurs de ces nouvelles ont été entièrement imaginées, y compris le thème. Pour d'autres, je suis parti d'une phrase, d'un mot. Par exemple, « Peinture d'automne qui ouvre le livre », si j'ai bonne mémoire, j'ai lu dans... un très beau livre de René Grousset qui s'appelle « Sur les traces de Bouddha ». Il faisait mention d'une légende chinoise, si voilà laquelle un peintre avait fini par rentrer dans sa propre toile, soie.
C'est un livre de Marguerite Yourcenar.
Oui, mais alors ça, je ne le connais pas chez Marguerite Yourcenar.
Dans les Nouvelles Orientales.
Eh bien oui, vous voyez, alors là, je ne savais pas. Et j'en profite pour dire que j'admire profondément Marguerite Yourcenar, qui m'a d'ailleurs fait l'honneur, lorsqu'elle a reçu l'œil émerveillé, de m'écrire fort gentiment en me disant qu'elle était heureuse de voir qu'un pareil livre pouvait venir de France. Elle avait donc l'idée que le français était peu sensible à la nature, à la beauté de la nature. Et puis tout d'un coup, il y avait ce livre qui ramenait à cette beauté essentielle.
Donc vous avez cette nécessité quand même d'inventer, de vous émerveiller.
Et c'est bien sûr, c'est l'essentiel de l'affaire. D'autres nouvelles sont... Alors je les ai inventées entièrement. Et finalement, celle qui achève...
Une nouvelle, ça s'invente. Ou bien on peut quand même emprunter un peu.
Non, c'est-à-dire qu'il suffit d'un mot jeté ici, d'un thème, et puis tout à coup, voilà un monde qui s'éclaire. D'ailleurs, cette création littéraire, vous en avez certainement longuement discuté au cours de vos interviews, mais c'est un mystère profond. Parce qu'au début, ce sont un peu les atomes crochus du vieux philosophe. On ne sait pas de quelle manière ça va s'agglomérer. Et puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi certains personnages prennent forme. C'est comme presque un ectoplasme. Si l'ectoplasme existe réellement, j'en sais rien. Prennent forme et à partir de ce moment-là, ce personnage ne cesse de s'augmenter, de prendre du poids. Et il vous entraîne parfois dans des aventures que, en tant qu'auteur, vous n'avez nullement prévues. Il arrive même dans Le Fou d'Edenberg, par exemple, que vous ayez à courir après vos personnages. Et le grand miracle, c'est que tout le monde se retrouve à peu près à la fin du volume pour saluer le public.
Mais l'idée de la nouvelle vous vient par hasard, lorsque vous marchez, lorsque vous rêvez, ou bien...
Oh, de toutes les façons, ça peut...
Ou bien la construction s'élabore au moment où l'on écrit.
Non, moi c'est toujours très médité, puis c'est projeté. Je l'ai dans la tête presque entièrement, et après, paf. Alors j'ai justement besoin pour cela de silence et de la solitude. Parce qu'il y a des hommes que j'admire beaucoup, comme Courteline, par exemple, qui arrivait à écrire ses nouvelles humoristiques. Il est vrai que ce n'était pas au même niveau, mais sur l'angle d'une table de café. Évidemment, Paris était peut-être moins bruyant à son époque qu'au nôtre, mais moi, ça me serait totalement impossible.
Et la solitude, vous la trouvez en Provence?
Oh, je la trouve admirablement en Provence, puisque j'ai la chance d'habiter une maison où l'on n'entend plus que des chants d'oiseaux. Alors c'est merveilleux.
Et c'est vraiment le seul endroit où vous puissiez écrire, vous ne pourriez pas...
Oh non, pas du tout, non. Non, n'importe où, j'ai la paix, je peux écrire.
Parce que je voudrais quand même dire un peu ce que vous écrivez. J'ai pris quelques extraits de « Contes des bruyantes montagnes avant la nuit », car je veux dire que vous vous saoulez un peu aussi d'écriture. Vous prenez, comme diraient certains, une véritable ivresse, parce qu'il y a ces mots que vous essayez de peaufiner. Passant sorti à quatre pattes de la tente, juste au moment où le soleil levant touchait les rochers alentour. Ils étaient déjà secs, mais plus haut, la neige fraîche étincelait sur les pentes, Au nord, les lambeaux de brume s'étiraient avec lenteur au-delà des contreforts, dernière trace de l'orage nocturne. Le ciel ressemblait déjà à un bloc de cristal. C'est-à-dire que vous racontez. Il n'y a pas que la nouvelle, et c'est la nouvelle.
Oui, c'est-à-dire que je suis très visuel, naturellement. Et je pars de vision. Et puis aussi, je cherche à avoir des détails très précis. Très précis, de manière que même un spécialiste tombant sur les fonds de la nouvelle puisse se dire, tiens, mais comment se fait-il qu'ils connaissent ça? Parce que je pense qu'on ajoute beaucoup à la crédibilité même de la nouvelle en passant par des plages insensibles du réel au fantastique.
Qui est Passang?
Passang, eh bien, c'est un marchand de thé qui s'en va dans le centre du Tibet en dirigeant une caravane de yak.
Alors, voilà. Je continue pour Passang. Passang se redressa, clignant des yeux, et inspecta minutieusement le décor. Tout était vide, immobile, à quelques pas, les yaks. Ils n'avaient pas bougé depuis la veille, 20 collines de fourrure, d'où s'élevaient de temps à autre des souffles puissants. Le tas des charges empilées avait tenu bon malgré la tourmente, apparemment rien d'anormal, et pourtant, les sens de l'homme étaient en alerte, quelque chose n'allait pas comme d'ordinaire, mais quoi ?
Voilà.
C'est le goût du détail.
Oui, c'est ça. Et après, alors, au fond, tout part de... Dans la première phrase, le fait essentiel, le matériel qui a déclenché l'aventure, elle est indiquée.
Oui, mais la suite, vous allez la raconter? Vous allez la raconter quand? Maintenant? Parce qu'il manque quand même la rumeur du torrent. Il n'y a plus d'eau au fond du vallon.
Oui, c'est ça.
Hein?
Il y a tout cela qui vient.
Mais tout cela vient, vous l'avez en tête? Et est-ce qu'il y a une obligation de le dire? Parce que
non, je suis moi-même à ce moment. Quand je démarre, je fais même moi-même partie de la caravane en question. Je vois, j'entends les choses. Alors là, c'est vraiment une projection intérieure.
C'est de l'atmosphère. Il faut la créer, puis ensuite, il faut permettre au lecteur de s'y installer.
Voilà, c'est ça.
Mais qu'est-ce qu'une plage de silence? Tout à l'heure, on parlait de cette plage de silence. C'est formidable de pouvoir offrir cela au lecteur.
Sur un certain plan, sur le plan intellectuel, je crois que c'est une opération de synthèse. Il ne faut pas tout dire. Il faut que le lecteur soit forcé de faire lui-même certains sauts. Ces sauts qui, dans d'autres domaines, d'ailleurs, provoquent la foi. Alors, ce saut est nécessaire. Pardon. Et, justement, une œuvre de synthèse qui ne dit pas tout oblige le lecteur à accomplir cet effort personnel de compréhension. Et sur le plan alors plus immédiat de la nouvelle, il faut laisser au lecteur la possibilité d'imaginer lui-même. C'est pourquoi, si je commence à dire tout, à partir d'un certain moment, je dis de moins en moins, et il doit compléter, car nous passons dans un autre monde, un monde alors irréel et fantastique.
C'est-à-dire vous faites confiance au lecteur, vous jouez avec lui.
Ah, absolument. Moi, je fais confiance au lecteur. Je vous avouerai que j'ai un grand respect pour le lecteur. Pour moi, c'est un ami inconnu qui ouvre mon livre et que j'espère, avec lequel j'espère parler pendant 200 ou 500 pages. Et de la manière la plus profitable, je dis pour l'un et l'autre, d'ailleurs.
Mais ce lecteur vous comprend, il vous écrit?
Oui.
Il essaie d'aller un peu plus loin que vous?
Oui. Je reçois maintenant beaucoup de lettres très sympathiques. Et c'est la véritable justification d'un effort, quel qu'il soit, et surtout artistique et littéraire, de savoir qu'ici ou là, on a créé des sympathies ignorées et qui se manifestent de temps à autre. Alors ça, c'est très important.
Mais vous semblez dire que cette justification de l'effort, vous ne l'aviez pas trouvée auparavant?
Si.
Il a fallu
attendre. Parce que j'ai eu la chance, au cours de ces tournées de conférences, alors d'avoir en direct des manifestations de sympathie, qui ne se manifestaient pas seulement par les applaudissements d'une salle, mais par le fait qu'à la fin de la conférence, il y avait des gens qui venaient me voir. Ça a été parfois d'ailleurs très, très émouvant.
Alors la Samivelle, vous parliez de l'Égypte, vous parliez de Groenland, vous parliez de la Grèce. Tandis que lorsque vous parlez de la montagne, lorsque vous comptez des nouvelles, c'est une toute autre atmosphère.
Oui,
c'est quelque chose de plus intime.
Bien entendu. On s'adresse alors, et puis le lecteur est d'un côté, vous de l'autre, à 500 km, et vous ne savez pas ce qui se passe.
On s'adresse au féerique, là.
Absolument. C'est la bouteille à la mer, pour reprendre le titre d'une revue, d'ailleurs, qui a disparu, mais qui avait un bien beau titre.
Vous lisez beaucoup de nouvelles? Vous lisez Georges Amado, Daniel Boulanger, Marguerite Yourcenar, Georges-Louis Borges, ou d'autres?
Oui, j'en lis pas mal, mais je dois vous dire que j'en ai écrit pas mal sur des sujets tout autres que la montagne, car en 1948-1949, à la sortie de la guerre, je collaborais très fréquemment aux nouvelles littéraires. et j'ai des nouvelles qui s'emparent aux nouvelles littéraires, aux œuvres libres, aux lettres françaises, etc., etc., qui n'avaient rien à faire avec la montagne. En général, des nouvelles à la fois fantastiques et avec toujours la pointe d'humour que vous connaissez.
Et vous pourriez les réunir, ces nouvelles, pour faire de nouveaux livres ?
Mais il est possible qu'elles soient réunies. Jusqu'à présent, certains éditeurs étaient réticents, mais à l'heure actuelle, on a l'impression qu'enfin, je dis enfin, parce que je considère la nouvelle comme une forme littéraire extrêmement séduisante pour tout le monde. Il semble que le goût revienne de la nouvelle. La preuve, c'est que vous avez cité un certain nombre d'auteurs qui écrivent des nouvelles maintenant. Et j'espère que le fait de produire, d'éditer un livre de nouvelles ne va pas encore fourrer ces auteurs dans un tiroir, et ni moi, par ricochet.
Ce sont quand même des petites histoires et c'est un art bien particulier. C'est une ciselure, la nouvelle.
C'est une ciselure et en outre, enfin, tous les mots portent. Justement, c'est un art de synthèse. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute.
Alors, pour écrire ces nouvelles, Samivelle, il faut véritablement, comme vous le disiez tout à l'heure, et la solitude et le silence. Donc, il faut refuser, mais d'une manière totale, le bruit. Et je veux dire que pour vous, le bruit, c'est aussi l'audiovisuel. Et vous ajoutez, vous êtes là très dur, que l'audiovisuel, c'est de la soupe toute faite. Alors que le livre, lui, conduit directement à la méditation. Donc vous n'aimez ni la radio, ni la télévision, ni tout ce qui vous apporte une forme de, je ne sais pas quoi, de...
Non, attention.
De rumeur.
Il faut... Non, alors, je vais tout de même introduire quelques nuances dans ce jugement.
Oh non, mais moi, je comprends très bien cela.
Non,
hein.
Non, mais c'est pas ça.
Moi, je comprends toutes les condamnations.
J'ai surtout... Pensez au cinéma. Parce que même dans le domaine de l'audiovisuel, le fait de projeter des photos fixes, par exemple, autorise les retours, les durées, la méditation. Le cinéma, c'est évidemment de la soupe toute cuite. Le metteur en scène impose sa vision, qui peut être absolument remarquable, mais le spectateur est entraîné dans un courant qu'il ne peut pas remonter. Le livre m'a toujours paru le véhicule essentiel de la culture parce qu'il exige un effort personnel et il autorise des méditations et des retours. Et je pense que tout ce qui ne coûte pas un effort à l'individu est très vite oublié. La mémoire fonctionne mal, c'est tout ce que je voulais dire. Mais il n'est pas question de contester la valeur d'enseignement souvent de la radio ou de la télévision, mais je pense dans la mesure où le tout est appuyé par un livre où l'on peut retrouver les thèmes, méditer soi-même. Je crois que c'est très important.
Et puis le livre a cette grâce incomparable, on le choisit.
On le choisit, oui, bien sûr.
Enfin, Samivelle, je reviens un peu à vos voyages, à l'Égypte, à la Grèce. Vous n'avez jamais d'ailleurs brigué le beau titre d'égyptologue.
Ni d'égyptologue, ni de spécialiste de la Grèce.
Mais vous aviez là émis une idée originale en vous faisant quelques ennemis parmi les spécialistes. Et vous paraissez, c'est vrai, à contre-courant des idées universitaires. Et c'est ce qu'on ne vous a pas pardonné,
maintenant.
Mais vous en êtes content d'une certaine manière.
Oui, écoutez, personnellement, avec innocence et candeur, j'exprime ce que je crois modestement être la vérité. Et puis si ça ne tombe pas bien, si ça n'est pas conforme à un certain snobisme de l'actualité, ma foi, ça m'est profondément égal.
On peut vivre en marge de l'actualité ?
Oui. Bon, très bien, d'autant plus que l'actualité, la vraie actualité, elle est ailleurs.
Oui, absolument.
Elle ne se passe certainement pas au niveau que nous connaissons l'un et l'autre.
Samivelle, vous avez toujours pensé que la musique est la reine des arts. Alors je me demande si vous n'auriez pas dû prendre une autre direction et peut-être vous passionner pour elle, composer, jouer d'un instrument.
Oui, malheureusement, ça ne s'est pas passé.
Non, mais vous y avez pensé à un certain moment ? Car on peut choisir entre deux instruments ou la plume.
Oui, mais il faut en avoir.
Ou le violon.
Oui, tout à fait d'accord, mais je n'étais certainement pas doué, ni pour la composition, ni pour un instrument quelconque. Par conséquent, j'ai le droit de regretter de ne pas avoir été musicien, compositeur ou exécutant, parce que je pense que la musique est vraiment la reine des arts. Mais c'était hors de portée, tout simplement. Alors je ne me plains pas tout de même, parce que j'ai eu d'autres cordes à mon arc.
Enfin, peut-être regrettez-vous à certains moments de n'être pas un peu plus connu, alors que vous êtes connu, parce que vous avez toujours refusé d'être sur place, de jouer le jeu de l'actualité, de la mode, et que vous avez refusé toutes les concessions. Et peut-être qu'en fin de compte, vous dites « j'aurais dû comme les autres » ou « comme quelques autres ». Et moi, je pense que c'est vous qui avez raison.
Vous pensez que j'ai raison à quel moment? Au moment où je dis j'aurais dû faire...
Non, au moment où vous dites j'aurais dû me rester dans ma solitude, travailler pour le bonheur de l'écriture.
Ouais, bah c'est...
Et ne pas sacrifier au mode.
Mais c'est bien ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, finalement. Je n'ai pas sacrifié au mode. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça coûte très cher, car la liberté coûte très cher. Mais ce qui compte essentiellement, c'est de savoir qu'on est connu et apprécié par des gens qui en valent la peine, qui vous ont en quelque sorte cherché eux-mêmes. Alors ça, c'est important.
Vous auriez pu dessiner, écrire, vivre sans cet amour de la montagne qui, en fait, vous a inventé?
Non, certainement, oui. J'aurais fait autre chose, et puis voilà tout.
Vous avez pensé à autre chose? Vous n'aviez pas de métier?
J'aimais trop la nature et la campagne, et j'avais l'intention de m'installer à la campagne et puis de faire de l'élevage, de m'occuper de chevaux, une histoire de ce genre. Et puis tout à coup, je me suis aperçu que je savais dessiner. Et voilà, et c'est parti comme je vous l'ai dit au début de cet entretien.
Mais c'est parce que vous avez été cet homme-là que vous avez pu écrire ce que vous avez offert, car le terme écologie n'était pas encore connu, et pourtant vous étiez fervent du respect de la protection de la nature.
Il y a bien longtemps, et puis j'avais l'impression... Enfin, j'avais une espèce de prémonition de ce qui allait se passer. Je me rendais compte que ça ne pouvait fuir que dans un seul sens. Et c'est bien ce qui est arrivé, hélas, à l'heure actuelle.
On dira peut-être de vous plus tard, lorsqu'on lira vos nouvelles. Il écrivait des nouvelles et d'une certaine manière, il était chasseur de papillons.
C'est ça, c'est un beau titre, chasseur de papillons.
Vous le revendiquez, ce titre?
Je ne suis pas entomologiste, mais je le revendique tout de même. Il implique justement une certaine liberté, une certaine fantaisie.
Ah, oui.
Et aussi un certain souci de l'exactitude.
Oui.
Et tout cela, j'y tiens.
Et puis de l'amitié, de la complicité avec la nature.
Oui, à condition naturellement de ne pas les piquer avec une épingle sur du liège, de les regarder voler, ces papillons.
Mais Samival, vous avez toujours le même regard ébloui sur la montagne.
Ah, oui,
je pense que ce regard ne peut pas changer.
Non, certainement pas. D'autant plus que c'est une mine de découverte comme toute la nature. C'est toujours nouveau. Toujours nouveau.
Et lorsque vous arrivez à Paris, vous n'êtes pas trop pessimiste?
Je crois que je n'ai pas besoin d'arriver à Paris pour ne pas être sinon pessimiste, du moins trop optimiste sur la suite des événements. Voilà, c'est tout ce que je veux en dire.
Vous avez le même humour qu'autrefois? Non, il a changé celui-là aussi.
Il s'est probablement approfondi. Mais enfin, grâce à Dieu, j'ai de l'humour. Et l'humour, c'est très important, très important. On m'a demandé une fois de définir l'humour. Puis j'ai cherché, j'ai dit, bon, ben c'est U comme humeur et mour comme amour. Une sorte d'humeur amoureuse, parce que l'amour est dans l'humour. Et quant aux humoristes, voyez-vous, on m'a aussi demandé de les définir, et j'ai dit que c'était des gens, les vrais, des gens tellement sérieux, qu'il leur était impossible de prendre au sérieux ce qui paraissait sérieux aux autres. Voilà.
Mais cet humour, on le trouve aussi dans le fou d'Edenberg, et je ne sais pas pourquoi je le cite ici, mais peut-être parce qu'on peut parler de beauté et d'humour et que vous en parlez. Et il y a cette phrase, derrière la parisienne la plus sophistiquée se tient dans l'ombre, pas bien loin, la femelle quaternaire.
Oui.
Alors pourquoi avez-vous écrit cela?
Parce que je pense que beaucoup de femmes sont à la recherche d'un homme, d'un vrai.
Elles n'ont pas trouvé?
Eh bien, elles l'ont trouvé dans la mesure où elles ont eu de la chance.
Vous avez trouvé la femme, vous?
Oui.
Et puis, il y a cette autre réflexion à propos de la liberté, tirée aussi du fou d'Edenberg. On vous raconte à l'école que les gens aiment la liberté par-dessus tout. Et tout ça, eh bien, ce n'est pas vrai. Ils la craignent, la liberté. Elle leur fait peur. Ils n'en veulent pas. C'est fatigant, ça, à force de penser, ça rend maigre. Alors, ils préfèrent avaler la bouillie toute mâchée, fabriquée par des malins qui la leur vendent cher. Alors, c'est vrai, ça aussi?
Oui, j'ai exprimé à travers le héros de mon livre une opinion qui est évidemment personnelle.
Oui, mais enfin personnelle, c'est-à-dire que vous méfiez de ceux qui se laissent aller et qui se laissent manipuler.
Ah oui, comment? Hein?
C'est-à-dire que nous avons eu au départ un animal libre, ensuite un animal domestique, et maintenant nous avons un animal dressé.
Un animal dressé qui suit des filières, avec des barricades à droite et à gauche, des barbelés.
Alors aujourd'hui, Samivel, que souhaiteriez-vous faire? Parce que tout commence peut-être. À 73 ans, on peut avancer une nouvelle vie.
Je serais écrire correctement et conformément aux rêves que j'ai nourri un nouveau livre. Et
vous y travaillez ?
Oui, j'y travaille, mais si vous me le permettez, c'est un très grand sujet. Un très grand sujet, très difficile à traiter. La montagne n'en est pas totalement absente, mais c'est bien au-delà de ce que l'on met généralement derrière le mot montagne. Et si vous permettez, je n'en dirai pas davantage pour le moment.
Merci Samivel, je recommande votre livre qui paraît chez Artaud, Conte des brillantes montagnes avant l'ennui. Et je suis heureux lorsqu'on écrit des nouvelles, car c'est un genre qui est très beau. Merci Samivel.
Merci à vous.
France Inter, bientôt 18h, j'ai accueilli aujourd'hui Samivel et Samivel, écoutez bien, je vais vous donner les rendez-vous de la semaine prochaine. Lundi, Alain Bombard, vous le connaissez bien.
Oh, t'es un vieil ami.
Mardi, Daniel-Émile Forc, un excellent comédien. Mercredi, Enrico Macias. Jeudi, un autre écrivain, Bernard Clavel. Et vendredi, un avocat, Jean-Denis Brodin. À lundi, bonsoir. Merci Samivel.